Je pense que ça serait bien d'entendre des questions venant de la salle. Je veux bien faire quelques remarques, mais après.
Bon. Alors, on ouvre la discussion dans la salle. Voilà, il y a une question.
Merci. Oui, c'est pour vous, madame, qui venez de faire cet exposé. Je n'ai pas bien compris parce que vous êtes allée assez vite et vous disiez que s'il y avait un problème de perversion et qu'on avait affaire à des individus pervers. Et ensuite, vous avez parlé donc de Marthe Robin et d'autres personnes. Juste après, vous avez dit, si vous regardez les textes, c'est exactement pareil. Donc, est-ce que vous sous-entendiez que c'est des gens qui sont aussi animés de perversion? Enfin, je trouve que vous êtes allé très, très vite. Et en même temps, en psychologisant le phénomène, j'ai l'impression que du coup, ça redevient aussi juste des personnes, des brebis noires, quoi, plutôt quelque chose de systémique, justement, en disant bah, c'est juste des gens qui ont une perversion, il y a une faille au niveau de l'organisation, et quand on aura trouvé cette faille, on pourra se débarrasser de ces gens-là. Et donc, vous voyez ce que je veux dire?
Merci beaucoup pour votre question. Alors, je n'ai pas dit que tout le monde était pervers. D'ailleurs, la perversion, elle n'existe pas en tant que telle. J'ai parlé d'aménagement pervers. D'accord? Donc, ça veut dire que il y a toujours une partie névrotique, etc. Les aménagements pervers, c'est se reconnaître comme un clivage de la personnalité, le clivage du moi. Un côté est enraciné dans le réel. L'autre côté, c'est ce qui prédomine, c'est la loi du plaisir. C'est mon plaisir qui compte. Par rapport aux enfants, par exemple, on leur dit dans la pédocriminalité, tu me donnes tout le plaisir que quelqu'un peut me donner. Tu n'as pas besoin de grandir. Tu n'as pas besoin d'être un homme, une femme, etc. Il n'y a même pas besoin de différenciation sexuelle, etc. Parce que c'est la loi du plaisir. Transposée à cette histoire de l'affaire, on pourrait dire que le plaisir, c'est le plaisir mystico-érotique mis en œuvre, documenté en ligne directe, parce que c'est une manière, parce qu'il faut contrer l'angoisse en soi, et où la ligne directe avec le ciel via cette Hélène Kless est extrêmement intéressante quand vous lisez, parce qu'elle ouvre la voie sur la toute-puissance divine que finalement les deux, Hélène et Thomas, s'approprient pour eux-mêmes. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, la question Marthe Robin, la question des autres figures mystiques hein, que j'ai pu évoquer. Ce qui est surprenant, c'est que moi qui travaille sur les abus depuis quand même 25 ans, je connais un petit peu de littérature à ce niveau et je dois dire qu'il y a des sacrées ressemblances dans les discours qui sont tenus. Et ça, ça m'interroge. D'autant que, et vous le dites dans l'ouvrage, que Thomas Philippe et ou Marie-Dominique, enfin c'en est un ou les deux, ont eu des contacts avec le père Finet. Or, c'est le père Finet dont nous savons déjà aujourd'hui qu'il est mis en examen. Enfin, il y a beaucoup de choses sont d'une certaine manière prescrites, mais il est quand même accusé par 6 ou 7 femmes d'abus sexuels. Voilà. Donc, il faut savoir ces choses-là. Et je crois que les moi, je n'ai pas la parole dernière à ce niveau-là, en tout cas pour le moment. Mais je dis, il faut que les investigations continuent pour qu'on y voit clair et qu'on sache de quoi il en retourne. Voilà. J'ai été assez claire?
D'autres questions importantes qui est à sa présence et je vous prie de vous présenter brièvement avant la question. Alors, il y a une question.
C'est aussi par rapport à Marthe Robin, Dominique Rima, prêtre à Châtel-Saint-Denis. J'ai lu les livres de Pierre Vignon, qui pourtant est en première ligne sur les abus. Et il a écrit justement un livre, et il connaît bien les foyers de charité, et soit sur le père Finet, soit sur Marthe Robin, il diffère un peu de votre position, ce qui est normal, on peut discuter effectivement, mais on l'a fait beaucoup parler, Marthe Robin, mais on n'a pas sa version à elle.
Exactement. Là, je suis d'accord. Je crois que ça ne mérite pas plus de commentaires. Je connais bien Pierre Vignon. Hein, donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je connais sa position. Voilà. Ceci étant, il n'a pas tout lu. Amassé de son propre aveu. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. La dame à côté.
Merci, c'est la même personne, j'avais parlé avant. Donc, j'aimerais vous remercier, madame, pour les commentaires que vous avez faits. C'était vraiment le diagnostic que j'attendais depuis le début, quand vous parlez de pervers narcissique. On en parle trop peu, et surtout le côté séducteur, c'est aussi un facteur très important, ainsi que le manque d'empathie, qui fait que ces gens finissent par faire ces abus. Une autre, monsieur Hadjic, je crois que c'était, vous avez fait un commentaire par rapport aux personnes qui n'étaient pas mineures sexuellement, donc que la loi n'agissait pas, mais en fait, il y a un article en France, je crois, que ce sont les actes sexuels contre dépendants, et là on a affaire à des personnes dépendantes qui peuvent avoir plus de 16 ans. En Suisse, c'est l'article 188 du Code pénal, c'est un délit. Et si on prend un autre article de personnes qui ne sont pas capables de responsabilité, elles peuvent faire 10 ans de prison. Ça veut dire que l'État doit intervenir automatiquement.
Juste une petite remarque. Dans le cas précis, il s'est agi parfois de mères supérieures, de communautés, de personnes. Voyez, donc vous pouvez dire, bon, après, si tout le monde devient dépendant, voyez, il y a une sorte de confusion. Moi, je suis quand même très réticent à dire, à confondre, par exemple, un acte sur un enfant et un acte sur une personne adulte. Je crois qu'il y a quand même un vrai problème, parce que là, on entrerait encore dans une forme de confusion et d'une indistinction par rapport à des réalités évidentes. Donc il faut faire attention. Après, il peut y avoir des personnes dépendantes, mais dans le cas précis, il ne s'agissait pas à proprement parler, dans ce sens-là, de personnes absolument dépendantes. Une mère supérieure, elle était en position d'autorité. Et on a dû déposer, on devrait parler par exemple de personnages qui ont joué des rôles extraordinaires dans cette histoire, je veux dire positif, par exemple le bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus, qui a très vite vu les choses, qui a déposé une mère carmélite qui était impliquée, et qui a éloigné le frère Thomas-Philippe de ces choses-là. Je voudrais juste faire une petite remarque par rapport au discours. Il y a un beau passage dans « Ce que Dieu a uni » de Gustave Thibon, où il pose le problème du discours mystique. Et il dit, deux personnes peuvent tenir le même discours, et dans un cas, c'est parce que le discours mystique est d'une certaine façon toujours dans un au-delà de la raison, en tout cas hors la raison. Mais dans un cas, c'est au-delà, et dans un autre cas, c'est en deçà. Voilà. Et c'est très difficile sur le simple discours de savoir si on est face à un fou, ou face à toujours des césures, qu'il faut avoir des régulations ecclésiales, et c'est sûr qu'il faut avoir un signe majeur, comme Thérèse d'Avila le disait, c'est-à-dire la charité fraternelle, les actes de vie, enfin le sens de la vie communautaire, la forme de vie, etc. Mais il ne faudrait pas dire qu'au fond, tout discours mystique, on pourrait le dénoncer en lui-même. Non, c'est à ce moment-là, on va dire, l'ordre carmélitain est en lui-même intrinsèquement pervers. Il peut y avoir des expériences mystiques, etc. Ce qui est, en revanche, quand ces expériences sont hors la médiation ecclésiale et sont hors les actes de charité, elles deviennent très graves. Donc voilà, le statut du discours mystique est un statut très très particulier dans le langage, parce qu'il renvoie à des expériences, et déjà Platon parlait de ce problème d'une folie divine ou d'une folie bestiale dans le Phèdre, et qu'il ne faudrait pas récuser en fait toute possibilité d'un au-delà de la raison. Mais l'au-delà de la raison, vers le haut, emporte la raison avec elle et n'est pas donc allogale ou illogique, ça c'est sûr. C'est ce qu'on trouverait dans certains cas.
Merci beaucoup. Mon nom est Christophe Buchy, je suis journaliste et je précise aussi que j'ai encore eu des cours et des examens chez le père Philippe. Je suis un tout petit peu, un peu gêné par la tournure un peu trop psychologique que prend le débat. J'ai beaucoup apprécié les trois interventions, mais s'il y a une chose de complètement fascinant et profondément troublant dans l'affaire des deux pères Philippe, c'est pas tellement la question de savoir pourquoi il y a des personnages problématiques dans l'Église ou dans d'autres institutions, mais ces deux affaires posent la question comment ces personnes peuvent agir pendant un temps extraordinairement long alors que leur côté problématique est connu. C'est ça la chose incroyablement intéressante dans cette affaire. Et là, j'aimerais au fond poser une question à M. Cavalin dans le livre. J'ai lu le livre, je trouve que c'est un ouvrage extraordinaire, vraiment, de subtilité, de différenciation. Je crois avoir entendu que M. Cavalin a dit que peut-être dans la structure de l'ordre dominicain, il pouvait y avoir quelque chose de problématique. Si j'ai bien compris, M. Cavalin, vous avez dit que la centralité de l'ordre a pu être un élément facilitateur, c'est-à-dire un élément qui a pu faciliter aux deux pères Philippe leur agissement. Est-ce que j'ai bien compris? Et si j'ai bien compris, est-ce que vous pourriez développer ce point?
Vous avez bien compris. Là? Voilà. Donc vous avez bien compris. J'explique dans le rapport ce qui a été pour moi une surprise. Ce qui apparaissait dans l'histoire officielle pendant très longtemps comme étant le fait que Thomas Philippe dévoilait en 1952 par les dénonciations de Madeleine Guéroux, c'était j'ai beaucoup apprécié que le nom de Madeleine Guéroux soit rappelé. Sans Madeleine Guéroux, que saurait-on de tout ça? C'est très important. C'est pas Paul Philippe qui a posé cette histoire, qui a posé les bases de cette histoire. C'est Madeleine Guéroux et puis d'autres après, comme Michel France Pesneau. Hein. Bon. En 1952, lorsque Thomas Philippe est envoyé à Rome, il est immédiatement, en trois jours, déféré devant le Saint-Office. Et au début, on a tous fait comme on nous l'avait dit avant, on s'est dit quelle promptitude du maître de l'ordre à sanctionner ou à mettre en place un processus de sanction de Thomas Philippe. Lorsque l'on a eu accès au rapport d'archives, puisqu'on n'a pas eu accès à l'ensemble des archives, lorsqu'on a eu accès au rapport d'archives et qu'on a pu le croiser, ce rapport d'archives, avec d'autres éléments extérieurs que nous avons eus, nous avons compris les choses de manière tout à fait autre, à savoir que le maître général Suarez protégeait Thomas Philippe en le mettant du côté d'un processus, en fait, du Saint-Office. Ce n'était pas un procès à ce moment-là, justement, c'était un processus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où le dossier était ouvert, plus personne ne pouvait poser de questions. C'est ça le secret du Saint-Office. Plus personne ne peut poser de questions. Et au moment où le procès va s'ouvrir à la fin 1955, c'est le moment où justement le maître général de l'ordre, Brown, qui est le successeur donc de Suarez, s'apprête à fermer la procédure. Et on n'a toujours pas de procès à ce moment-là. Et il faut cette déposition extraordinaire qui pose question. Je n'ai pas de réponse. de Mgr Gérard Deslauriers. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Église savent qui est devenu Mgr Gérard Deslauriers par la suite. Il faut cette déposition extraordinaire de Mgr Gérard Deslauriers qui amène des éléments qui sont inouïs pour que le procès soit ouvert par Paul Philippe. C'est-à-dire qu'on est à deux doigts de la fermeture de la procédure. Donc, effectivement, parce que le maître de l'ordre Suarez, donc le maître de l'ordre des Dominicains, a la possibilité de déférer le Thomas Philippe devant le Saint-Office, et que cette possibilité-là n'est pas donnée à n'importe qui le met en fait à l'abri de toute question, à commencer par les questions que pose au même moment le provincial de France des Dominicains. Il arrête la possibilité de l'enquête, tout en disant que l'enquête se poursuit, mais en fait, personne ne peut le savoir.
Pourquoi a-t-il fait ça ?
Pour protéger la réputation de Thomas Philippe et du courant doctrinal que représentait Thomas Philippe. La même raison qui amène que Thomas Philippe, à un moment donné, ne peut plus être protégé, donc le procès a lieu, peu de gens sont au courant, mais certaines personnes sont au courant, ce qui va entacher durablement sa réputation. Par contre, Marie-Dominique Philippe, justement, le procès qui a lieu contre lui et qui aurait pu être beaucoup plus sévère, j'essaye de le montrer dans le rapport, on était dans des cas qui, du point de vue du droit canon, étaient extrêmement graves. Eh bien, tout cela reste caché, ce qui permet à Marie-Dominique Philippe, en 1975, de créer les frères de Saint-Jean. Une affaire que dont personne n'a jamais entendu parler. Donc, si le maître général de l'ordre, Brown, n'avait pas été lui-même, par son titre de maître général, excusez-moi si je n'ai pas été assez clair là-dessus, si le maître général de l'ordre, Brown, n'était pas, par son titre de maître général, membre du Saint-Office, et en général chargé des affaires les plus délicates du Saint-Office concernant les Dominicains, la situation n'aurait jamais eu lieu de cette manière-là. Rappelons que celui qui mène tout le procès, Paul Philippe, est également dominicain. C'est une affaire entre Dominicains où l'on laisse les Dominicains gérer entre eux des questions qui ne doivent pas sortir à l'extérieur. Et Paul Philippe est tout sauf un personnage impartial, il est l'ami depuis les années 1930 de Thomas et de Marie-Dominique Philippe. Et j'essaye de l'expliquer là aussi dans le rapport. Lorsque Thomas Philippe, à un moment donné de ses échanges pendant le procès du Saint-Office, lorsque Thomas Philippe rappelle à Paul Philippe qu'ils allaient ensemble prier Mater Admirabilis, il lui tend un piège terrible. Et on est vraiment dans une fiction. C'est une fiction. On pourrait faire une série avec ça. C'est-à-dire qu'il le menace, de la possibilité de le mettre dans l'affaire dont il est le juge. Lorsque Thomas Philippe, au même moment, pendant le procès, prend la parole et dit Maritain, mais Maritain, véritablement, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa philosophie politique et dans son rapport avec l'État, alors que Thomas Philippe n'a eu de cesse d'obtenir le soutien de Maritain dans les années 46-49 à peu près, et que d'un seul coup, lors de son procès, il dénonce Maritain et il dénonce la philosophie de Maritain, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise le fait qu'il sait qu'au même moment, Garrigou Lagrange est en train d'instruire un procès au Saint-Office contre la philosophie politique de Maritain. Et qu'on a été tout près d'une encyclique. On a été tout près d'une encyclique dénonçant explicitement la philosophie politique de Maritain. Et Thomas Philippe sait parfaitement cela au moment où il agit, où il prend la parole, et où d'ailleurs, de manière très significative, il refuse à chaque fois que Paul Philippe lui demande de répondre à l'oral, à chaque fois il répond qu'il ne se souvient pas. Et ensuite, comme il en a le droit dans la procédure, il répond par écrit. Là, il se souvient de tout. Et il fait des développements qui sont tout à fait circonstanciés. Donc le rapport qu'a Thomas Philippe à la justice du Saint-Office, c'est un rapport où on est dans une lutte entre un individu qui est persuadé de ses convictions et une institution dont il pense qu'il peut retourner le jugement qui va avoir lieu dans cette institution. Oui.
Non, plus de questions.
Maurice Page.
Monsieur
le Président.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Peut-être une petite précision ou une suite de ce que vous venez de nous expliquer. On peut donc considérer effectivement assez légitimement que ici, à l'Université de Fribourg, au moment où Philippe est professeur, soit l'autorité dominicaine, soit l'autorité de l'université ignore ces procès et ces faits. Ou bien est-ce qu'il s'y tient à carreau, ou bien est-ce qu'il manipule, ou quel est un peu votre avis là-dessus?
Le maître de l'ordre en 1957 arrange avec Marie-Dominique Philippe un scénario qui permet à Marie-Dominique Philippe de ne pas apparaître comme étant responsable, coupable, ayant joué un rôle, quel qu'il soit. Bon. Ça passe par des échanges avec les autorités de l'université, effectivement. Ces échanges sont, à mon sens, extrêmement graves. Parce que ce que met en avant le scénario qui est élaboré consiste, pour protéger Marie-Dominique Philippe, toujours au nom du fait qu'il est un agent privilégié de la défense de l'orthodoxie. Il faut protéger Marie-Dominique Philippe. Pour le protéger, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Il est professeur à l'Université de Fribourg. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Le maître de l'ordre va mettre en avant le fait qu'il a besoin de lui, auprès de lui, à Rome. En faisant cela, non seulement il cache la condamnation, le procès, cette fois pas seulement la procédure, mais le procès dont Marie-Dominique Philippe a été jugée coupable, mais en plus, il en fait un personnage privilégié auprès du maître de l'ordre des Dominicains. Il n'est pas condamné, mais sa réputation sort accrue de son procès par ce scénario de défense. Et autant sur Thomas Philippe, effectivement, il n'a pas été possible de faire oublier totalement l'histoire de l'eau vive. Il a été possible d'atténuer, hein, mais pas de faire oublier. Autant sur Marie-Dominique Philippe, personne n'a su qu'il avait été condamné par le Saint-Office pour une condamnation où le maître de l'ordre est intervenu personnellement, là encore, parce qu'il en avait le droit en tant que maître de l'ordre des Dominicains, donc pouvant intervenir au Saint-Office, demandant que la sanction contre Marie-Dominique Philippe soit atténuée. Ce qui a été repris, ce qui a été pris en considération au moment du jugement.
On peut rajouter qu'avec ça, on est complètement dans le systémique de l'Église. Complètement.
Il y a des questions là. Troisième.
Excusez-moi, j'ai encore une question adressée à Madame Thiel, parce que j'ai du mal comprendre, et donc j'ai besoin d'éclaircissement. Parce que, comme je vous ai compris, c'est comme si l'éthique était une science théorique. ce qu'elle n'est vraisemblablement pas. Vous parlez de faillite éthique, si j'ai bien compris même que vous identifiez ça avec le thomisme, et par plusieurs fois vous parlez de qu'il faut rappeler les règles éthiques. J'avais le sentiment que l'éthique était une science pratique, et que, par conséquent, la faillite éthique que je connais, c'est toujours la faillite d'un homme en particulier. Et que rappeler les règles éthiques, c'est aussi efficace que de rappeler les règles de la circulation. S'il n'y a pas un flic derrière, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Donc, j'aimerais que vous me clarifiez, que je comprenne mieux quel était votre propos, parce que j'ai eu vraiment de mécompréhension sur cette question.
La faillite éthique peut toucher évidemment un individu. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'on parlait seulement. On peut dire dans une première approximation que voilà deux frères et toute une famille qui ont eu le meilleur de l'éducation chrétienne, qui à cette époque était surtout du point de vue de l'éthique et de la théologie morale portée par le thomisme et le néo-thomisme. Donc c'est toute une conception de l'éthique qui est en jeu. Or, pour diverses raisons, dont les aménagements pervers, cette éducation n'a pas complètement prise, mais c'est aussi un problème par rapport à la question du néo-thomisme qui a pu, non seulement pour les frères Philippe, mais dans toute l'Église à travers le monde, avoir comme conséquence une certaine conception extrinsèciste du mal, du péché extérieur à moi. Et donc une ardoise magique qu'on efface quand on a fait quelque chose de mal. Et cette perspective-là, c'est une perspective de l'obéissance qui intégrait très peu le côté de l'autonomie qui comprend pourquoi on ne pose pas tel acte, comment on s'épanouit, etc. Vous voyez, si j'éduque un enfant en lui disant « ça, on ne fait pas », ça ne suffit pas. Mais à cette époque-là, c'était quand même ce type-là d'éducation qui fonctionnait de façon massive, même s'il y a certainement beaucoup d'exceptions. Et c'est de ce point de vue-là que toute une vision néo-thomiste, c'est essentiellement néo-thomiste parce que Thomas d'Aquin en tant que tel, et c'est encore le mal intrinsèque, c'est un fribourgeois qui disait que Thomas n'aurait jamais écrit cela, si on suit au sens strict saint Thomas, mais toute une perspective du néo-thomisme fonctionnait comme ça. Voilà.
C'est moi. Heureusement que vous le rappelez parce que ici a enseigné Servet Pinkers qui a montré justement que l'extrinsécisme, c'est le nominalisme et c'est pas le thomisme. Et que c'est pour ça qu'il y a un problème. Alors après, le néo-thomisme, qu'est-ce que c'est? Bon, sur la question de la meilleure éducation, étant père de famille d'un certain nombre d'enfants, j'avoue que je suis en faillite en permanence sur l'éducation. Donc je ne sais pas si je donne à mes enfants la meilleure éducation. Et je crois qu'il faut quand même revenir à des réalités un peu terre-à-terre là-dessus avant d'incriminer tel ou tel. Je voudrais aussi rappeler une chose très importante, c'est que le modèle biblique, notamment celui de la Genèse, celui du péché originel, on ne peut pas douter que Adam ait reçu la meilleure éducation. Et là, pour le coup, sans erreur. Et cependant, il y aura péché. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention à croire que tout d'un coup, il n'y a plus de responsabilité humaine et que il y aurait une sorte de causalité uniquement à cause d'une théorie éthique ou à cause d'une... Je crois que c'est un peu ce que disait Jean-Paul Franière, en gros. Il y a faillite et personnelle, il y a une responsabilité. Et on peut, en étant éduqué directement, en ligne directe de Dieu, et là, indubitablement, puisque c'est une affirmation du premier livre de la Genèse, ce que ça nous dit, c'est que même dans ce cas-là, avec la meilleure doctrine, avec tous les... Voilà, la possibilité du mal existe. Mais ma question va à Tanguy Cavalin, parce que j'ai l'impression qu'on a trop resserré là autour d'une question doctrinale. C'est-à-dire que Tanguy, vous avez dit justement qu'un des problèmes, c'était qu'on était autour des questions doctrinales plutôt que des questions de forme de vie à cette époque-là. Et d'une certaine façon, on a protégé Thomas Philippe parce qu'il apparaissait, et Marie-Dominique Philippe, comme les héros du redressement doctrinal selon l'expression du maître général de l'ordre. Mais cette interprétation-là ne tient sa cohérence qu'en excluant le cas Jean Vanier. Et il faudrait le refaire rentrer dans l'histoire, parce que quand on enlève le cas Jean Vanier, qui n'est pas du tout dans les questions de doctrine, qui est même en dehors de toute théologie à proprement parler, qui est l'homme de la pratique directe de la compassion, qui est l'homme qui dans ses textes, ne fait pas référence, des références majeures à saint Thomas, voilà. Et donc, qui a balayé cela. Donc, on voit bien qu'on est dans une autre registre, alors même que c'est la même histoire. C'est pour ça que j'ai quelques soupçons sur l'idée d'une doctrine. En plus, deuxième chose, la théologie était très faible. Alors, aussi bien chez Thomas Philippe, je le rappelle, ça a tout de suite été vu d'ailleurs à l'intérieur, on cite des passages, hein, où on voit bien que, aussi bien Marie-Dominique Chenu que d'autres, qui sont plutôt des thomistes classiques, vont reconnaître. Mais on sait très bien aussi que Marie-Dominique Philippe n'enseignait pas la théologie. Et qu'il passait, comme me l'a dit quelqu'un qui a été longtemps chez les frères de Saint-Jean, de ses mantras métaphysiques à une spiritualité sans transition. Donc, est-ce que c'est une théologie qu'il s'agit ici d'incriminer? J'ai l'impression qu'on va un peu vers ça, ou vers l'obsession doctrinale, ou alors est-ce qu'il y a tout autre chose? Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a un événement dans cette affaire qui fait que nos systèmes d'explication sont à chaque fois remis en cause. Il y a de l'inouï. Est-ce qu'on va l'admettre ou pas? De la même façon que dans le péché originel, il y a de l'inouï. Est-ce qu'on va le reconnaître ou pas? Voilà, c'est ça. Donc comment est-ce que vous incluez Jean Vanier dans cette question de la forme de vie et du voilà, vous voyez ma question.
Bon, effectivement, je vous rejoins tout à fait. Je ne pense pas qu'il y ait de procès à faire du thomisme, du néo-thomisme. Comment j'inclus Jean Vanier et Thomas Philippe? Parce qu'ils vont ensemble. La fondation de l'Arche, c'est quelque chose qu'ils font ensemble, et qu'ils font ensemble d'une manière, je dirais, spectaculaire par rapport à ce qu'ils avaient fait auparavant à l'eau vive. Il faut rappeler, pour ceux qui n'ont pas lu le rapport, que du temps de l'eau vive, le public qui est visé, c'est le public des grands. Ce sont les diplomates, ce sont les intellectuels, ce sont les politiques, avec une ambition qui est une ambition internationale, assumé, il s'agit de former les élites pour l'avenir, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un monde en pleine reconstruction. Entre-temps, il y a eu le procès de 56. Et de ce procès de 56, tant Thomas Philippe que Jean Vanier ont bien du mal à se relever, parce que Jean Vanier est inclus dans les complices de Thomas Philippe. Et moi, ce qui m'étonne, à mon avis, ce qui doit être retenu, c'est la capacité extraordinaire, là encore, je ramène la force de la subversion, d'individus qui sont condamnés par le Saint-Office, d'une condamnation comme... on n'en connaît plus d'autres de si fortes, et qui vont se relever en quelques années. En quelques années pour fonder l'Arche, c'est-à-dire une des fondations les plus brillantes, très vite, qui va, qui va impressionner les autorités ecclésiastiques. Et on voit à travers Thomas Philippe, je réponds, hein, à travers Thomas Philippe et Jean Vanier, on voit un processus d'inversion où là où on était auprès des puissants, d'un seul coup, ou en quelques années, on est auprès des plus faibles. Vous avez parlé tout à l'heure de l'humilité. D'une certaine façon, on fait la grève du zèle de l'humilité, qui est un processus qui a prouvé dans l'histoire du christianisme sa force. À un moment donné, je fais la comparaison avec François d'Assise. Celui qui apparaît comme le plus faible, le plus petit, on reprend là des formules qui sont ceux de l'Arche au début, eh bien, devient le plus puissant. Donc, on a effectivement ce que fait le Saint-Office en 56, il contrecarre une prétention, on va dire, théologique, dogmatique, à faire avaliser au plus haut sommet de l'Église une certaine conception d'un certain thomisme. Bon. Ça n'arrête pas Thomas Philippe, ça n'arrête pas Jean Vanier. Ça les amène à reprendre les choses par un autre type de théologie, qui est quelque chose que, avec Nathalie, nous avons étudié il y a des années quand nous travaillions sur les prêtres ouvriers, par une théologie par corps. C'est une théologie par corps qui se met en œuvre à l'Arche et qui est une théologie qui est incontestable justement parce qu'elle passe par le corps, par l'extrême humilité. Qui peut contester ça ?